pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, c'est un équilibre qui est en train de se rompre. Les quelques 200 000 glaciers répartis sur notre planète sont en train de fondre à une vitesse époustouflante. Les conséquences sont et vont être colossales. Manque d'eau douce pour l'irrigation et l'utilisation domestique, disparition des animaux et des plantes qui en dépendent, fin des loisirs de montagne et hausse du niveau de la mer. Allez, on respire un grand coup et on s'attaque à un état des lieux sans concession avec notre invité.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Jérôme Chaplaz.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, à l'Institut de géosciences de l'environnement de Grenoble, responsable scientifique du projet Ice Memory, dont on parlera dans un instant, et le nouveau directeur de l'Institut polaire français Paul-Émile Victor, que je vous laisse nous présenter en quelques mots.
Oui, je suis chercheur. Je fais en sorte de connaître un peu mieux le fonctionnement de notre machine terrestre absolument incroyable. Je travaille sur les climats, l'évolution du climat, l'évolution de la composition de l'atmosphère, des gaz à effet de serre notamment, à partir de ce qu'on appelle les carottes de glace. On en reparlera avec le projet Ice Memory.
Et donc cet institut français, Paul-Émile Victor, en quelques mots, c'est...
C'est l'agence de moyens française pour faire en sorte que des chercheurs en France puissent conduire des recherches dans les milieux polaires, qui sont des milieux par essence extrêmement difficiles d'accès, qui demandent une mise en place d'une logistique très particulière. Et c'est le rôle de cet institut, que l'on appelle donc l'Institut polaire français, Paul-Émile Victor, de conduire ses recherches dans les régions polaires.
Voilà, régions polaires qui elles aussi sont affectées par les changements climatiques. Alors ces glaciers, puisqu'on s'intéresse aux glaciers, dans quelles proportions fondent-ils ?
Globalement, ils sont, vraiment à l'échelle globale, ils sont en état de fonte. Il y a quelques exceptions régionales. Il faut savoir que tous les glaciers au monde ne sont pas aujourd'hui en perte de masse, mais l'essentiel des glaciers perdent de la masse et contribuent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à l'augmentation du niveau des mers, donc ça impacte tout le monde. Il faut savoir quand même que plus des deux tiers de la population mondiale vit à moins de 100 km des côtes. L'augmentation du niveau des mers, même de quelques dizaines de centimètres, pose des problèmes essentiels et ça nous ramène aux glaciers, à de l'eau qui est stockée à l'état solide dans des glaciers de montagne, dans des grandes calottes de glace dans les régions polaires. Quand ces glaciers fondent, l'eau est transférée vers l'océan et automatiquement le niveau des mers monte.
Alors est-ce qu'il y a des régions du monde plus affectées que d'autres ?
Il y a des régions du monde plus affectées que d'autres, notamment les glaciers dans la cordillère des Andes, aujourd'hui reculent extrêmement fortement. Il y a, si on prend le problème dans l'autre sens, qui est... Quels glaciers aujourd'hui ne fondent pas ? En fait, les exceptions, ça va être en Scandinavie, par exemple, où certains glaciers prennent de la masse, non pas parce que ça se refroidit, la température de ces lieux se réchauffe comme beaucoup d'endroits dans le monde, mais il y a plus de précipitations qui arrivent. Et comme cette précipitation se produit encore à l'état solide, le glacier récupère de la neige fraîche et prend de la masse, jusqu'au point où la température sera telle qu'il y aura aussi une perte de masse. Une autre exception, c'est dans l'ouest du massif himalayen, dans les massifs du Karakoram, où là, en fait, les glaciers bénéficient en quelque sorte d'une couverture. Ce sont des glaciers que l'on appelle glaciers rocheux, pour l'essentiel. C'est-à-dire que quand on les regarde depuis la montagne ou dans un paysage, on ne voit pas de la glace, on voit du rocher. Le glacier est recouvert de rochers et en fait ce rocher agit comme une espèce de couverture qui protège le glacier des échanges d'énergie et qui fait qu'il peut conserver de la masse, voire en prendre.
Mais donc en dehors de ces deux zones-là, partout ailleurs, ça fond.
Ça fond et les glaciers contribuent effectivement très fortement à la montée du niveau des mers. C'est pratiquement aujourd'hui 25-30% de la montée du niveau des mers due à la perte de masse des glaciers de montagne.
Alors quelles sont les causes de cette fonte ?
Eh bien, avant tout, l'évolution du climat. On le sait tous aujourd'hui, la Terre se réchauffe. Alors, elle a connu des variations de température à différentes échelles de temps. On sait tous qu'à l'époque des dinosaures, la Terre était beaucoup plus chaude qu'aujourd'hui, peut-être 10 ou 15 degrés de plus qu'aujourd'hui. Mais c'était une évolution extrêmement lente, à des échelles de temps géologiques. On parle de millions, de dizaines de millions d'années. Aujourd'hui, la particularité de ce qui se passe sur notre planète, c'est que le climat évolue. On a un réchauffement déjà de pratiquement 1 degré Celsius en seulement 100 ans, ce qui est considérable à l'échelle planétaire, mais ça se passe très vite.
C'est-à-dire qu'on est passé d'une moyenne de 15 degrés à une moyenne de 16 degrés.
Pratiquement, c'est ça, tout à fait. Et ce que l'on projette pour le futur, en fonction des émissions de gaz à effet de serre provenant des activités humaines, c'est un réchauffement qui est, dans le meilleur des cas, autour de 2 degrés Celsius, dans le pire des cas, potentiellement 6 degrés Celsius à la fin du siècle, ce qui est absolument considérable. Des chiffres comme ça, il faut bien expliquer que 6 degrés Celsius, c'est moins que ce qu'on va vivre entre la nuit et le jour. Mais à l'échelle de la planète, 6 degrés Celsius, c'est absolument considérable. C'est la différence de température entre une période froide et une période chaude. On se projette il y a 18 000 ans, à l'époque de l'homme de Néandertal. Le niveau des mers était 120 mètres plus bas et la Terre était 4 à 5 degrés plus froide qu'aujourd'hui. Donc ce sont des tout petits chiffres dans l'absolu, mais à l'échelle planétaire, c'est absolument colossal.
Donc on comprend bien les conséquences, et donc l'une des conséquences de ce réchauffement du climat, c'est la fonte des glaciers, vous le disiez. Les glaciers de la chaîne des Alpes en Europe n'échappent pas évidemment à ce phénomène, qu'ils soient en Suisse, en Italie, en Autriche ou en France, même constat, ils se réduisent petit à petit en perdant de la masse glaciaire qui ne peut plus se régénérer d'année en année. Le phénomène est là et irréversible, la recherche se penche urgemment sur les conséquences de cette fonte. Clémentine Métainier est allée à la rencontre de ceux qui scrutent ce phénomène.
Antoine Rabatel est glaciologue. Il travaille depuis plus de 20 ans en tant que chercheur scientifique à l'Institut des géosciences de l'environnement, l'ancien laboratoire de glaciologie et géophysique de l'environnement de Grenoble. C'est là où je le rencontre. Au début de l'année, il révèle avec ses confrères autrichiens, italiens et suisses les résultats d'une étude menée depuis 2015. En réalisant l'inventaire des glaciers des Alpes françaises, il se rend compte d'une accélération brutale de la fonte des glaciers depuis 2003.
Alors dernièrement, effectivement, j'ai conduit une actualisation de l'inventaire des glaciers dans les Alpes françaises à partir d'images satellites, donc d'un satellite de l'Agence spatiale européenne qui s'appelle Sentinel, Sentinel 2 précisément. Donc ce satellite a été lancé en 2015 et dans le cadre d'un projet à l'échelle des Alpes européennes, on a utilisé les premières images acquises par ce satellite pour réaliser cette actualisation de l'englacement, si je puis dire, des Alpes européennes. Et donc moi, en tant que responsable français de ce projet, j'ai travaillé à l'échelle de nos massifs alpins français. Et ce qui a été intéressant, c'est lorsqu'on a pu comparer les résultats de cet inventaire de 2015 avec les inventaires qu'on avait réalisés précédemment. Donc il y en avait un qui datait de 2003 et puis le précédent datait du milieu des années 80. Et ce qu'on s'est aperçu en comparant les différentes périodes, donc la période 85-2003 puis la période 2003-2015, c'est que le retrait sur la période 2003-2015 est trois fois plus important que le retrait qu'on avait pu quantifier sur la période précédente, donc 85-2003. Et cette multiplication par 3 de la perte de surface des glaciers nous a un petit peu surpris. Bon, on s'attendait évidemment à ce que les glaciers continuent à reculer. Néanmoins, c'est l'ampleur, si je puis dire, de cette augmentation de la perte de surface des glaciers qui peut paraître surprenante.
Plus concrètement, il y a des sommets des glaciers critiques dans les Alpes ?
Oui, alors dans les Alpes françaises, c'est des choses qu'on a pu mettre en évidence. Le fait que, à l'échelle du XXIe siècle, en fonction des scénarios d'évolution du climat qui sont proposés par nos collègues climatologues, une grande partie des glaciers présents dans le massif des Écrins, le massif de la Vanoise, seront amenés à disparaître très vraisemblablement. Quel que soit, si je puis dire, le scénario, même dans les conditions les plus optimistes. Et malheureusement, la tendance actuelle montre qu'on est loin de ces scénarios optimistes, si je puis dire, qu'on a plutôt tendance à aller vers les scénarios pessimistes. Et on a évalué que l'ensemble des glaciers dont l'altitude la plus élevée, l'altitude maximale, est inférieure à 3400-3500 mètres, ont de fortes chances de disparaître d'ici la fin du siècle. Ça veut dire que, grosso modo, en dehors du massif du Mont-Blanc, d'ici la fin du siècle, il ne restera plus beaucoup de glaciers dans les autres massifs que sont la Vanoise, les Écrins ou les Grandes Rousses ou le massif de Belle.
Ce constat, Joseph Rouard le dresse aussi, il le vit même physiquement. Depuis plus de 40 ans, son quotidien côtoie celui du glacier du Mont de Lance, qui culmine la station de ski des Deux Alpes. Il est l'un des pisteurs les plus anciens de cette station, qui possède le plus grand glacier skiable d'Europe. Habitant du Fresnay-d'Oison, à quelques kilomètres de la station, il regarde la neige fondre sur le pas de sa porte. Sur le terrain depuis 1976 et à quelques mois de la retraite, il est le mieux placé aujourd'hui pour parler de l'évolution du glacier du Mont de Lance.
Au début, on ne se rendait pas trop compte. On a eu des hivers enneigés, d'autres hivers moins enneigés, des fois des hivers pas du tout enneigés. Mais l'été, on avait toujours de la neige sur le glacier. Les premiers étés que j'ai fait, fin des années 70 jusqu'au début 80, on avait de la neige sur le glacier, des neiges internelles. Et puis, milieu des années 80, on a vu cette neige commencer à fondre, chaque été de plus en plus, jusqu'à arriver complètement à la glace, quoi. Donc, toute la neige qui était sur la glace a fondu. Et on était en fin d'été, on arrivait toujours sur la glace. Et maintenant, chaque été, on est quasiment à la glace, tout le temps, presque. J'ai une photo que j'ai prise l'été dernier, là. C'est le jour qu'on l'a fermé, le 30 juillet, là. Il n'y a plus de neige dessus, c'est que de la glace. Bon, on a déjà connu ça par les étés passés, mais en général, ça arrivait fin août, ça. Et ça, c'est fin juillet, le 30 juillet, je crois qu'elle date, la photo. C'est le jour qu'on a fermé le glacier, et moi, j'avais jamais, depuis l'été 77 que j'ai commencé, on a toujours été au bout de l'été. C'est-à-dire, on a jamais fait de fermeture anticipée. On a toujours été jusqu'au dernier jour qui était prévu. Et cette année, on a fermé le 30 juillet jusqu'au 10 août. Après, il y a eu un petit coup de froid qui est revenu. On a pu rouvrir une dizaine de jours. Voilà. Mais on n'avait jamais fermé avant la date prévue.
Vous avez commencé à travailler, donc, effectivement, en 1976. C'était le début, en fait, de ce qu'on appelait le réchauffement climatique. C'était déjà, le constat était déjà fait ou pas du tout, pas encore?
Je pense, à l'époque, on n'en parlait pas trop, hein. Le ski d'été, il a ouvert aux Deux Alpes, il a ouvert en 72-73. Donc moi, j'ai attaqué 4 ans après. Non, on ne parlait pas trop de ça. Moi, je ne me rappelle pas qu'on en parlait vraiment, hein. En 76, il y avait une grosse sécheresse. Mais après, l'été de 76, mais l'hiver 76-77 a été un des plus enneigés des dernières décennies. Donc après, non, on n'en parlait pas. On a commencé à s'en rendre compte au milieu des années 80.
Et donc, de quelle manière vous vous en rendez compte de ce réchauffement? Est-ce que ça veut dire moins de neige? Est-ce qu'il fait plus chaud? Ou c'est aussi dans des choses beaucoup plus concrètes dans votre métier?
On s'en est rendu compte l'été, on n'avait jamais de... quand il pleuvait plus bas, la station par exemple, l'été il neigeait toujours aux alentours, à 2006-2008, c'était toujours de la neige. Et l'été, au glacier, fin des années 70, début 80, moi j'ai pas le souvenir d'avoir vu de la pluie au glacier. Et après, fin des années 80-90, là, on a commencé à avoir des gros orages sur le glacier, chose que je n'avais pas vue avant, quoi. Avant, on avait dit qu'il faisait... faisait suffisamment froid pour que ça soit de la neige qui tombe et pas de la pluie. Et là, à partir de ces années-là, on voyait de la pluie qui délavait bien le glacier, et voilà.
Ce glacier n'est pas dans la plus mauvaise posture. Dans la chaîne des Alpes, il est un glacier qui est voué à disparaître à très court terme. Il s'agit du glacier de Sarène. Emmanuel Thibert le connaît bien. Il est physicien glaciologue à l'IRSTEA, l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture, où il étudie les risques glaciaires depuis de nombreuses années avec une attention particulière portée à Sarène. Il nous explique pourquoi l'étudier est intéressant.
Alors ce glacier, il a une particularité, c'est que... Bon, il est sur une zone d'altitude aux alentours de 3000 mètres. Il est tout petit aujourd'hui. Il est exposé plein sud. Et il a la particularité d'être très sensible au signal climatique. Par sa petite taille, en fait, on a une mesure très très homogène sur tous les sites de mesure du glacier, de ce qui est représentatif des échanges d'énergie entre le glacier et l'atmosphère. Donc la richesse de Sarène, c'est cette sensibilité au climat. Et puis la longueur de la série, on a 70 ans presque de mesure, donc on a une très bonne idée de l'évolution des tendances à long terme. On arrive à voir quelles sont les tendances, on arrive à déceler autour de ces tendances quelles sont les années très particulières, des étés très très chauds comme 2003, ou des hivers très très secs, autour de ces longues tendances. Donc c'est ça la richesse de longues séries d'observations comme Sarène. De pouvoir tirer cette information climatique en termes d'évolution à long terme, parce que dans notre contexte d'évolution de réchauffement du climat, il est très difficile d'attribuer une année particulière au niveau météo, de l'attribuer à un phénomène climatique qui se déroule sur le long terme.
Mais justement, au-delà d'analyser les données dans l'évolution, est-ce que c'est alarmant la manière dont la fonte a pu évoluer sur ce glacier-là, ou c'est la suite de l'histoire et la suite du climat?
Alors, Une des particularités des glaciers comme Sarène, des petits glaciers qui sont sur des altitudes et dans des massifs de moyenne montagne à haute montagne, c'est que ce sont des glaciers qui se sont construits, qui se sont installés dans ces massifs lors d'un épisode climatique froid qu'on appelle le petit âge de glace, qui est une période froide d'origine naturelle qui a eu lieu entre 1650 et 1850. Et on est sorti de cette période froide depuis donc le milieu du 19e siècle. Et en fait, ces glaciers étaient condamnés à disparaître avec l'évolution naturelle du climat. En plus de cette évolution naturelle du climat, en fait, l'homme a perturbé l'atmosphère avec son émission les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, en fait, l'homme a accéléré, est en train d'accélérer la disparition de ces glaciers type Sarène installés dans ces massifs de moyenne altitude. Mais l'échéance du glacier change, mais en fait, ces glaciers étaient quand même voués à disparaître. On a fait qu'accélérer, en fait, l'échéance de leur disparition.
Est-ce que c'est grave, un glacier qui fond ?
Alors, c'est grave. On va dire que l'évolution dont on parle, elle est accélérée par l'homme. Donc, ce qui est grave, c'est la vitesse à laquelle ça se passe. Et de manière plus générale, c'est l'évolution du climat tel qu'on est en train de l'imposer au milieu naturel. Ça évolue beaucoup plus vite que une évolution naturelle du climat. Donc c'est dans ce sens-là que l'impact de l'homme est important. Mais sur la disparition en elle-même du glacier, on va dire que ça a un impact relativement limité dans nos massifs sur la ressource en eau. Elle est essentiellement liée à la neige de l'hiver. Et sur ces bassins d'altitude, on aura toujours un fort enneigement hivernal. La disparition du glacier, ça impacte très localement dans le haut des bassins versants, la ressource en eau, lorsqu'on est très proche des glaciers. Mais dès qu'on se passe un peu plus loin en vallée, en fait, la ressource en eau, elle est plus naturellement assurée par ces glaciers, elle est assurée par la ressource pluviale, par les aquifères. Et donc on va dire que la disparition de ces glaciers, elle a peu d'impact à l'échelle des bassins, des grands bassins versants, elle a peu d'impact sur la ressource en eau.
Et justement, l'une des principales conséquences de la fonte des glaciers relève de l'hydrologie. Il faut savoir que le rôle de stockage saisonnier puis de redistribution d'eau des glaciers est primordial. Il est estimé qu'un sixième de la population mondiale dépend des stocks de neige et de glace en été. Avec le réchauffement, la ressource en eau pourrait bien se raréfier à long terme, entraînant alors des conséquences sur ses usages pour l'agriculture, l'hydroélectricité, donc pour les hommes, mais aussi pour toute la biodiversité. Et c'est là qu'interviennent les hydrologues, chargés notamment de modéliser les bassins versants dépendants, en partie, des glaciers, pour appréhender les futures conséquences. Pour mieux comprendre ce processus, direction la vallée de l'Arvan, près de Saint-Jean-de-Maurienne, à plus d'une centaine de kilomètres de Grenoble, le torrent de l'Arvan se repère très facilement. Isabelle Gouttevin est hydrologue et travaille au Centre d'études de la neige de Grenoble, accompagnée ce jour-là de Thomas Condon, chercheur en hydrologie et glaciologie à l'Institut des géosciences de l'environnement. Elle développe un projet de recherche sur le bassin versant de l'Arvan qui prend sa source au glacier de Saint-Sorlin. C'est leur première sortie sur le terrain en ce mois d'avril, mais il y a encore beaucoup de neige. La pose des capteurs sera donc pour plus tard.
Alors moi personnellement c'est ma première venue de l'hiver parce qu'en général au niveau glacio-hydrologique l'hiver on fait pas vraiment d'observation, les sites sont inaccessibles, la couverture neigeuse peut être importante, ici on est à plus de 1500 mètres, puis le glacier culmine à 3400 mètres, donc on est clairement on n'y vient pas tellement l'hiver. Il est intéressant pour autant de connaître l'accumulation neigeuse et là on est sur une année particulièrement riche, énormément, exceptionnellement beaucoup de neige. Ce qui explique aussi pourquoi on vient un peu plus tard dans la saison par rapport à d'habitude. D'habitude, les capteurs sont un peu remis en eau à cette période. Et puis là, on va attendre encore un peu de temps que soit sûr qu'il n'y ait plus trop d'épisodes de neige et surtout de gel à cet endroit-là. Parce que sinon, ça pourrait être dommageable aux capteurs. Voilà. Mais bon, il y a pour autant des enquêtes de terrain qui ont lieu actuellement sur ce bassin versant qui est ciblé par nos équipes. Pour mieux connaître les usages de l'eau et les volumes et leur saisonnalité, la saisonnalité des prélèvements anthropiques. Le gros boîtier gris là que vous voyez, en fait c'est ce qui est utilisé pour la mesure de turbidité. Alors c'est un préleveur en fait. Dedans il y a des tubes où lorsque le débit atteint un certain niveau ou la hauteur d'eau atteint un certain niveau, les chercheurs pensent qu'il est intéressant d'échantillonner et donc on va avoir un échantillonnage automatique qui va collecter donc des prélèvements qui seront ensuite analysés en laboratoire. Voilà.
In the heart of the winter, I wanna go south of the river, face it alone. In the heart of the winter, and this will celebrate, this will settle. There in understanding, this is a mistake.
Les conséquences de la fonte des glaciers sur l'eau sont à observer au cas par cas, car le processus est complexe. Il n'en reste pas moins que des craintes sont bien présentes pour différents acteurs à l'échelle des bassins versants des Alpes.
Alors c'est quand même une crainte des gestionnaires de l'eau. La Saint-Sorlin, du coup, il a perdu à peu près 40% de sa surface depuis les années 80. 40%, c'est presque la moitié, quoi. C'est beaucoup. Enfin, ça, c'est visible.
À l'échelle humaine, quoi. Enfin, ouais. Il y a quelque chose de patrimoine, quoi. Un glacier, on est dans une région, on est habitué à ça, quoi. Il n'est plus là, ça change, ça bouleverse les gens.
Et quelle est la principale conséquence sur l'eau de la fonte d'un glacier comme celui-ci ?
C'est l'altération des débits estivaux qui vont... Le volume de débit lié à la fonte glaciaire, donc le volume de débit qu'on va retrouver en bas d'un bassin versant glacé au mois d'août, typiquement dans nos régions, il va être plus faible si le glacier est sur le point de disparaître qu'il ne l'est actuellement. Et puis on va a priori voir du coup un décalage de la saisonnalité du débit plus vers la période de fonte nivale. Donc la fonte nivale, a priori, dans un cas de réchauffement climatique, elle va commencer plus tôt. Elle va toujours avoir lieu, mais il y aura peut-être un peu moins de neige. Et du coup, le pic de débit qu'on va retrouver à l'aval, il aura plutôt lieu au mois d'avril-mai qu'au mois de, de juillet comme ça l'est actuellement.
Après, il y a tout ce qu'on peut mettre en place comme moyen de mitigation, quoi. Enfin, ouais. Comme moyen de résoudre ce problème si on avait une pénurie d'eau. Et là, il y a quand même des choses à faire avec des retenues collinaires. Alors, faut faire attention aussi parce qu'il peut y avoir des zones humides à préserver. Tout est complexe. Il peut y avoir il y a quand même quelques épargnes de réinfiltration de nappes. Donc, on remet de l'eau dans les aquifères. Ça permet quelque part d'avoir un stock après qu'on peut réutiliser. Il y a encore beaucoup de choses à développer, je pense. Et aussi de s'inspirer de ce qui se fait peut-être dans les autres régions. Dans une région où il fait très sec, bah, ça fait longtemps qu'ils gèrent l'eau de manière, économe, quoi. Donc il y a aussi à aller s'inspirer de différentes zones du monde, quoi.
Du reste du massif. Pour survivre, elles ont trouvé refuge sur cette roche faite de quartz qu'on ne trouve que sur la pointe de Buffer.
Si la fonte des glaciers laisse présager un futur sombre sur de nombreux plans, en bas, là où vivent les hommes, il n'en est pas de même, en haut, sur les cimes ou sur les îles du ciel. C'est d'ailleurs le nom de cette exposition au Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble consacrée aux plantes de haute altitude. Elle s'ouvre en parallèle de la publication d'une récente étude menée par des chercheurs du laboratoire d'écologie alpine en lien avec le Parc National des Écrins qui montre que les plantes de haute altitude sont parmi les grandes bénéficiaires du réchauffement climatique. C'est ce qu'on appelle le verdissement des Alpes. Rencontre avec Cédric Dantan, botaniste au Parc National des Écrins. Il a participé à cette étude. Je le rencontre au milieu des cartes en relief et des photos de plantes de montagne.
Aujourd'hui, Cédric, je vous retrouve au Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble. Alors, qu'appelle-t-on les îles du ciel, justement ?
Alors, la notion d'île du ciel, bon, ça vient de l'américain Sky Islands. C'est que les hauts sommets, les hautes montagnes, où qu'on soit sur la planète, en tout cas, nous, on s'est intéressé pour les Alpes, faisaient comme des îles, il y a en gros un peu plus de 15 000 ans, entre moins 2 millions d'années et moins 15 000 ans à peu près, au milieu d'un océan de glace. Donc maintenant, le résidu, c'est notre fameuse mer de glace à Chamonix, par exemple. C'est vraiment le résidu. On appelle ça une mer, d'ailleurs, pas un océan. Et les îles du ciel, bah, c'était ces îlots rocheux déglacés, c'est-à-dire sans glace, qui émergeaient. Et pourquoi la logique d'île aussi, c'est que c'est des endroits où la vie était possible, a priori justement. Et c'est ça qu'on a cherché à étudier avec toute une panoplie de personnes à Grenoble.
Cette étude, effectivement, qui m'a interpellée, mais qui était une des rares études, je pense, qui a été faite sur le sujet, en tout cas dernièrement, sur les Alpes, montrait qu'en fait, les plantes de haute altitude, elles sont parmi les grands bénéficiaires du réchauffement climatique. C'est un petit peu ça, la ligne rouge de l'étude. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif. Il se passe deux choses. En gros, on a tendance à dire qu'avec le changement climatique, il y a tout un pan de la biodiversité qui va disparaître. Et c'est pour partie vrai. Mais c'est pas que le changement climatique, c'est aussi l'activité humaine, c'est même beaucoup l'activité humaine indépendante du changement climatique. Dans les Alpes, le réchauffement climatique est plus fort qu'ailleurs. Les températures augmentent plus vite qu'ailleurs. Donc l'idée, c'était comprendre un petit peu qu'est-ce que ça allait changer finalement dans les Alpes. Et c'est vrai qu'il y a des études un peu similaires qui ont été faites dans la zone arctique, et il a été constaté finalement une augmentation de l'activité de la végétation. C'est-à-dire que la végétation était en gros comme un jardin qui devenait plus luxuriant. Ce qui n'est pas absurde quand on imagine un petit peu, il fait plus chaud, plus longtemps, du coup, bon, c'est pas logique que les plantes soient gagnantes. Dans les Alpes, il y a tout un lot d'espèces qui sont liées à l'altitude. Bah finalement, si ça se réchauffe, elles vont continuer à monter, puis au bout d'un moment, elles n'arriveront plus à monter, elles disparaîtront. Si on se base à une échelle de temps courte, c'est-à-dire là, on va dire là maintenant, et puis dans les 50 prochaines années, c'est pas ça qui va se passer. Ce qui se passe, c'est effectivement, ces plantes-là, on leur offre un nouvel espace. Les glaces fondent, les névés fondent, il fait plus chaud, finalement, elles sont bénéficiaires. Mais c'est peut-être sur les 50, sur le siècle à venir. Ensuite, malheureusement, si le changement, vu comme c'est parti, continue, voire s'accélère encore, il n'est pas dit qu'après avoir gagné un petit peu, elles perdent derrière. Un peu comme un bon repas, on nous sert plein de desserts, on se gave, mais après là, c'est l'indigestion, voire la crise de foie aiguë, enfin bref. Et c'est un peu ce qui peut se passer. C'est-à-dire, sur une échelle de temps relativement restreinte, on voit que les plantes sont bénéficiaires. Sur une échelle de temps plus long, elles risquent d'en pâtir énormément.
Alors, plus concrètement, de quelles plantes s'agit-il? On les appelle souvent les plantes de l'extrême. En tout cas, c'est ce que j'ai pu lire. Comment elles se sont adaptées? Est-ce qu'on les trouve ailleurs?
Alors, les plantes de l'extrême, qui sont liées à cette exposition au Muséum de Grenoble, c'est vraiment des plantes vraiment spécialisées à la haute montagne. C'est pas elles qui contribuent majoritairement au verdissement des Alpes. Celles qui contribuent au verdissement des Alpes, ce sont celles qui seront un peu en dessous. Ces plantes de l'extrême, alors, elles en ont vu d'autres, quoi. Elles en ont largement vu d'autres. La preuve, elles sont apparues pendant les périodes glaciaires. Donc là, et elles sont toujours là. Donc, c'est difficile de savoir vraiment ce qu'elles vont devenir. Parce qu'on voit qu'elles sont capables de résister à des températures mais de plus 56 degrés en pleine journée, de supporter des moins 20 degrés. Enfin, elles sont assez spectaculaires, ces plantes. Hein. C'est pour ça que ça vaut le coup de faire une expo sur elles. C'est qu'elles méritent vraiment une attention particulière. Que ce soit dans les Alpes, mais on trouve la même chose, effectivement, dans les hauts sommets d'Afrique, où il y a des plantes qui... comme le disait un scientifique à l'époque, subissent un hiver chaque nuit, un été chaque jour. Ça, c'est typiquement le Kilimandjaro, le mont Kenya, où il y a des plantes en haute altitude. Elles doivent supporter des chaleurs extrêmes et des froids extrêmes sur 24 heures. Donc bref, les plantes d'altitude, c'est pas toujours évident de prévoir ce qu'elles vont devenir, parce qu'elles ont des sacrées capacités.
On atteste l'étude parue le 5 avril dernier dans la revue Nature, qui montre en effet qu'avec le réchauffement climatique, des plantes rares apparaissent ou réapparaissent, avec un nombre d'espèces qui se serait enrichi sur 87% des sites européens étudiés sur 45 ans de relevés botaniques.
De Clémentine Métainier, réalisé par François Porcheron. Jérôme Chaplaz, je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS, à l'Institut des géosciences de l'environnement de Grenoble, et responsable scientifique du projet Ice Memory. Comment est-ce que vous réagissez à ce reportage sur ces glaciers que vous connaissez bien ?
Eh bien, en fait, ce que ses collègues ont exposé, c'est effectivement l'observation, c'est la vérité du terrain. Il y a une évolution très très profonde de ces milieux aujourd'hui. Ça repose effectivement sur l'observation. Être capable de dire qu'aujourd'hui on perd de la masse, les glaciers perdent de la masse, c'est parce que des scientifiques, il y a quelques dizaines d'années, ont commencé à les observer, à une époque où finalement tout le monde s'en fichait quelque part. Grâce à ces données, on a pu réaliser que on a vraiment une vraie perte de masse aujourd'hui, on a pu la quantifier. Pour nous scientifiques, ça a plusieurs conséquences. Il faut savoir que, comme ça a été dit dans le reportage, la perte de masse de glaciers peut avoir des impacts sur les réserves en eau, sur la quantité d'eau qui est fournie dans des pays qui en dépendent. Si on se place dans le contexte de la cordillère des Andes, vous prenez une ville comme La Paz, la capitale de la Bolivie, 30% de son eau potable provient de la fonte des glaciers chaque année. Le jour où il n'y a plus de glaciers, ces 30% d'eau potable sont perdus. Donc soit on met en place des barrages pour faire en sorte de récupérer la précipitation correspondante, soit on trouve une autre solution, mais ça va être très compliqué. On parle de centaines de milliers de personnes qui en dépendent.
Oui, c'est valable aussi pour l'irrigation de l'agriculture, par exemple, dans de nombreuses régions
valable.
Du monde.
Tout à fait, c'est valable en termes d'irrigation. La ressource en eau, c'est un aspect d'eau potable et c'est un aspect d'agriculture. Les glaciers, après, ce sont des objets qui peuvent potentiellement être dangereux. Et quand ils perdent de la masse, ils deviennent dangereux de plusieurs façons. Quand un glacier recule, très souvent, au front du glacier, se forme un lac de barrage. La moraine, c'est-à-dire les dépôts rocheux qui ont été laissés par le glacier, forment une espèce de barrage naturel. L'eau de fonte du glacier s'accumule et forme un lac naturel, jusqu'au jour où la moraine ne résiste plus. Et il y a une purge brutale, et très souvent, des gens habitent en dessous, et on a des coulées de boue et des avalanches absolument meurtrières. Les chutes de sérac également, les glaciers, en fait, découpent des espèces de crevasses qui forment des espèces d'énormes lames de glace pouvant chuter brutalement et déclencher des avalanches, avec encore des conséquences derrière. Donc il y a différentes problématiques associées aux glaciers. Et puis la dernière qui, évidemment, nous intéresse dans le cadre du projet Ice Memory, c'est le fait que l'on perde, à travers ces glaciers, une mémoire de la planète.
Alors, on va y revenir, mais il y a aussi la fin des loisirs de montagne. C'est quand même un pont économique important, cela.
Alors, effectivement, quand on se projette dans le contexte de nos pays occidentaux, l'or blanc constitue effectivement une ressource tout à fait considérable. Dans la région Rhône-Alpes, toute l'économie qui gravite autour de l'économie du ski, etc., est tout à fait considérable. C'est évident qu'avec la perte de masse des glaciers et avec la montée en altitude de la limite entre la neige et la pluie, petit à petit les domaines skiables en fait vont être impactés. On va reposer de plus en plus sur de l'utilisation de neige artificielle. Mais cette neige artificielle, il faut que la température soit négative pour pouvoir la produire.
Et il faut suffisamment d'eau aussi pour pouvoir la produire.
Il faut suffisamment d'eau. Donc on est effectivement face à un enjeu considérable sur l'aspect de la gestion économique de territoire. Les politiques commencent à en prendre compte, je pense. Les gestionnaires de territoire et les gestionnaires de stations de sport d'hiver également. Avec les fluctuations habituelles, il suffit d'une très bonne année comme cette année, où l'enneigement a été exceptionnel parce que les conditions météorologiques ont fait qu'on a eu de très belles précipitations sur les Alpes. Et puis quelque part, la mémoire collective oublie. Et on se dit, ça y est, c'est reparti pour un tour. Ben non, c'est pas reparti pour un tour. Je pense qu'on aura quelques années d'embellie. Il ne faut pas se reposer sur ces années d'embellie pour oublier la tendance à très long terme qui est perte de masse de neige, perte de masse de glace.
Et oui, le phénomène est inéluctable, on ne peut plus l'empêcher, d'où l'idée de créer un sanctuaire mondial des archives glaciaires. C'est le projet Ice Memory dont vous êtes le responsable scientifique. On en parle dans un instant, juste après une petite pause musicale. Got a feeling like winter, got me feeling so cold, got me reaching for my jacket, shelter me from the storm. What happened to those summer days, just a haze, we were so unafraid. Got a feeling like winter. Can you melt me like ice, 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 ice on a hot summer day? Burn up on my ice, 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 ice. Don't run away, yeah, won't run away. Ice, 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 ice. Yeah, won't run away. Ice, 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 ice. Don't run away, yeah, won't. Yeah. écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous parlons de la fonte des glaciers dans le monde et de leurs conséquences avec Jérôme Chaplaz, directeur de recherche au CNRS à l'Institut des géosciences de l'environnement de Grenoble et responsable scientifique du projet Ice Memory. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler l'objectif de ce projet ?
Ice Memory, c'est un projet qui vise à sauvegarder la mémoire glacée de la planète. Les glaciers, ce ne sont pas seulement de très très beaux objets, ce ne sont pas seulement une ressource en eau, c'est une mémoire. Chaque couche de neige qui s'accumule à la surface d'un glacier, petit à petit, s'enfonce dans les profondeurs et a enregistré des paramètres de l'environnement, la température qu'il faisait au moment de la précipitation neigeuse, la composition de l'atmosphère, des enregistrements en quantité de pollen, en quantité de bactéries qui sont présentes dans l'atmosphère. Tout ça s'est archivé année après année, précipitation neigeuse après précipitation neigeuse. Notre travail de scientifique consiste à aller sur ces glaciers pour forer ce que l'on appelle des carottes de glace. C'est un cylindre qui va faire typiquement 10 cm de diamètre, perforant le glacier jusqu'à sa base. Et ainsi, on remonte les pages du livre. Et on peut raconter l'histoire de la planète sur des échelles de temps qui varient entre quelques siècles à quelques dizaines de milliers d'années.
Vous-même, vous avez reconstitué comme ça l'histoire du méthane.
Tout à fait, ça a été mon cœur de métier pendant plusieurs décennies, je peux dire. Ça a été d'utiliser cette matière première absolument extraordinaire. La nature a fait en sorte de préserver un enregistrement de ces conditions au cours du temps, dans des conditions absolument exceptionnelles. Notre travail à nous, c'est finalement de décrire cette espèce d'alphabet naturel qui a été écrit dans la glace, en étudiant des paramètres chimiques, physiques de la glace qui nous racontent cette histoire. Il se trouve que dans les glaciers, pour ce qui concerne les glaciers de montagne, aujourd'hui avec le réchauffement climatique, eh ben cette bibliothèque, elle voit les pages s'envoler les unes après les autres, jusqu'au moment où le glacier ne sera plus là. Donc le rôle d'Ice Memory, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, alors que certains de ces glaciers sont encore dans des conditions, des bonnes conditions pour fournir cette matière première de bonne qualité, on collecte ces carottes de glace et on va les préserver sur le très long terme pour la science du futur, pour les idées de demain, pour les technologies dont on ne dispose pas aujourd'hui, parce qu'on sait que les connaissances évoluent, les capacités analytiques évoluent. En revanche, la matière première ne sera plus là d'ici quelques décennies.
Donc cette bibliothèque va être installée en Antarctique ?
Tout à fait. L'idée, c'est d'aller la préserver en Antarctique. Ça peut paraître un peu farfelu de faire voyager de la glace sur de telles distances, mais il faut se projeter sur le long terme. On parle de stocker de la glace dans de très bonnes conditions, sur plusieurs décennies à plusieurs siècles. Qui aujourd'hui, à la surface de cette planète, est capable de me garantir qu'un congélateur fonctionne dans 2, 3, 4 siècles ? Personne. En revanche, on a un congélateur naturel, il s'appelle l'Antarctique. C'est un continent extrêmement froid. Au cœur de l'Antarctique aujourd'hui, à la base franco-italienne Concordia par exemple, qui est opérée par notre institut et par les Italiens, la température moyenne de l'année est de moins 54 degrés Celsius. La neige et la glace est à moins 54 degrés Celsius. C'est un lieu qui se réchauffe comme partout au niveau mondial, mais à une vitesse suffisamment lente pour que laisser de la glace sur ce lieu pendant des décennies, des siècles, voire des millénaires, on sait qu'elle va rester à l'état de glace, elle ne va pas fondre.
Alors il y a déjà eu deux missions à Ice Memory.
Oui, il y a eu déjà deux missions. On a débuté, la première opération Ice Memory, ça a été sur le glacier du Col du Dôme, juste en dessous de l'arête sommitale du Mont Blanc. On l'a conduite en août 2016. C'était mon collègue Patrick Ginot de l'Institut de Recherche pour le Développement qui était le moteur de cette opération. Et la deuxième opération, c'était en Bolivie. Nous sommes allés sur le glacier Illimani, à 6300 mètres d'altitude, qui domine la capitale La Paz. Et là encore, mon collègue Patrick Ginot a piloté de main de maître cette opération. Il faut quand même réaliser qu'il fallait amener une équipe technique à 6300 mètres d'altitude, la laisser travailler là-haut 15 jours à 3 semaines et redescendre pratiquement 3 tonnes de glace à dos d'homme la nuit pour pas que la glace fonde.
Donc c'était une opération assez...
Tout à fait. L'opération en elle-même était une véritable prouesse.
Il fallait vivre pendant 3 semaines à 6300 mètres d'altitude.
Oui. Je vous cache pas que moi, je n'y suis pas allé. Je pense que j'ai plus la condition physique pour relever de tels défis. Mon collègue Patrick Ginot en est capable. Il s'est entouré d'une équipe absolument extraordinaire. Beaucoup de porteurs du village vivant qui est installé juste en dessous du glacier Illimani. Et voilà, ça a été un travail absolument colossal.
Et la prochaine expédition, donc, c'est en Russie, sur le mont Elbrouz au mois de juin prochain.
Oui, c'est le mont Elbrouz. Le mont Elbrouz, c'est le point culminant du Caucase russe, donc entre la mer Noire et la mer Caspienne. Un glacier situé à 5400 mètres d'altitude. Là, les pilotes, ce seront nos collègues russes. On les accompagne en fait pour la science et puis l'opération de forage. Il faut bien réaliser qu'aujourd'hui, Ice Memory, ce n'est plus une opération franco-française. On s'est déjà associé avec les Italiens, les Suisses, les Russes, et d'autres nations sont en train de s'agréger à notre consortium. Là, ce sont les Russes qui prennent les choses en main et qui vont piloter cette opération sur un glacier qui va nous apporter beaucoup d'informations par rapport aux deux autres déjà forés.
Oui, alors justement, comment est-ce que vous choisissez de forer tel ou tel glacier ?
On choisit ces glaciers parce que ce sont en quelque sorte des sentinelles posées en différents lieux du globe. Chaque glacier enregistre des paramètres, enregistre des informations sur l'environnement pour la région où il est situé. Si on veut étudier, par exemple, l'évolution d'un phénomène climatique comme El Niño, cette espèce d'inversion de température qui se produit à l'échelle du Pacifique tous les 2 ou 3 ans, si on veut regarder cette évolution-là à des échelles de siècles ou de millénaires, il faut être à côté du phénomène, il faut être à côté du Pacifique, et donc on va en Cordillère des Andes. Si on veut étudier les fréquences de vents de sable saharien, par exemple, les processus qui sont produits dans le Moyen-Orient, et bien là, on va dans le mont Elbrouz, parce que les retombées de neige sur le mont Elbrouz enregistrent les paramètres de ces régions. Donc on échantillonne en quelque sorte le globe. Chaque glacier a sa représentativité spatiale, et c'est cet ensemble de carottes qui finalement échantillonne la planète, qui représentera le patrimoine final.
Et alors quel est votre objectif en termes de, je sais pas, on peut parler en termes de quantité peut-être de carottes?
On vise potentiellement une vingtaine de sites dans les montagnes rocheuses, en Himalaya, également dans le Kamchatka, etc. Ça va dépendre essentiellement des capacités de nos collègues étrangers, parce qu'on ne va pas gérer nous-mêmes toutes les opérations, à collecter les fonds nécessaires pour mettre en place ce type d'opération. Parce que c'est important de le souligner, Ice Memory repose entièrement sur du mécénat. C'est du mécénat qui est obtenu par la fondation de l'Université Grenoble-Alpes, avec ma collègue Anne-Catherine Holman qui va démarcher les mécènes. Et c'est grâce en fait à ces fonds, combinés à nos moyens d'établissements publics, je mentionnais le CNRS ou l'Institut de Recherche pour le Développement, permettant l'opération de se réaliser.
Donc là, vous faites un appel aux dons.
Ben, quelque part, encore, je dirais, au niveau national, on se débrouille très très bien. Anne-Catherine a réussi à persuader beaucoup de mécènes et je les en remercie ici. Je ne vais pas tous les citer parce que j'en oublierai et j'en vexerai potentiellement certains.
Ils sont tous sur le site. Hein.
Ils sont tous sur le site, c'est parfait. Pour nos collègues russes, c'est plus compliqué de trouver des mécènes. Les collègues japonais sont en train de chercher, les collègues américains également. Donc on espère que ça va fonctionner.
En tout cas, il y a une volonté internationale de conserver cette bibliothèque, comme vous dites, que sont les glaciers.
Oui, et qui a été actée par l'UNESCO. C'est important de le mentionner. On a eu le soutien de la Commission nationale française et l'italienne à l'UNESCO pour faire en sorte qu'à la dernière réunion du comité exécutif de l'UNESCO à Paris en octobre 2017, le projet Ice Memory bénéficie d'une décision qui entérine en fait le bien fondé de ce projet dans l'esprit de l'UNESCO. C'est l'esprit patrimonial, c'est l'esprit éducatif également, c'est l'esprit culturel, parce qu'en abordant ces différents glaciers, on aborde également des cultures très différentes qui sont intéressantes à discuter et à présenter.
Merci beaucoup Jérôme Chaplace d'être passé dans C'est pas du vent. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde de cette émission et à vous d'être fidèle à ce rendez-vous. N'oubliez pas, vous pouvez nous réécouter sur notre application Pure Radio ou sur le site internet de RFI, onglet émission. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure.